Alors nous allons nous présenter rapidement. Nous sommes mariés et moi je suis, j'ai une formation professionnelle de médecin et j'exerce la médecine en tant que médecin de rééducation fonctionnelle ou médecine physique et réadaptation
en pédiatrie
à Rennes. Et par ailleurs, j'ai été ordonné il y a une quinzaine d'années comme diacre permanent dans le diocèse par Monseigneur Julien à ce moment-là. Bon, alors le parcours, c'est la deuxième partie du parcours. On nous avait demandé de vous aider à avoir quelques repères sur lesquels vous réfléchirez et à partir de quels vous pouvez être amené à prendre des décisions les uns et les autres sur l'accueil de la vie en son début, les joies que cela apporte, l'accueil, et puis aussi les questions que cela pose. Et c'est assez facile de dire qu'il y a beaucoup de questions actuellement, et en particulier en France. Alors le parcours, les modalités du parcours.
Il fait très chaud, c'est après le déjeuner. Aussi, pour vous mettre un petit peu en éveil, on va vous donner 4 cas concrets et on va vous inviter à prendre 5 minutes pour réfléchir à ce que vous diriez par rapport à ces cas concrets, que vous échangiez pendant 5 minutes. Il n'y aura pas de retour de vos échanges vers nous, mais entre vous, c'est super. Par contre, à la fin, après le petit topo que Bruno va faire, eh bien, il y aura un temps de questions-réponses. Alors donc, nous allons vous soumettre 4 cas. Nous proposons que le premier cas, ce soit la partie gauche qui prenne cette question plus à cœur. Vous voyez, pour que vous réfléchissiez, vous vous retournez pendant 5 minutes. La question numéro 2, ce sera un petit peu le milieu, là. La question numéro 3, ici. Et la question numéro 4, là-bas.
Au fond.
D'accord ? Ça vous va ? Donc, on répète, on va dire les 4 questions. On prend 5 minutes uniquement pour tout d'un coup avoir son esprit un peu en alerte. Vous voyez, être éveillé à des questions qui sont douloureuses, à des questions qui peut-être vous ont été posées ou dans votre entourage. Et d'ailleurs, en préambule, on demande pardon déjà à l'avance si jamais dans la façon de présenter les choses, c'est douloureux pour chacun. On sait bien que tout ce qui touche à la vie est merveilleux, mais aussi n'est pas toujours très simple. Donc, à l'avance, pardon. Et puis, bien sûr, on a conscience que ce qui compte, ce sont les actes et pas les personnes. Tout cela pour nous aider à avancer dans le chemin de la vérité et de la miséricorde. Alors, le premier cas, donc à notre gauche, une femme enceinte tentée par l'avortement dit à son médecin: docteur, à ce stade, ce n'est encore rien. Qu'en pensez-vous ? Voilà, si vous voulez réfléchir à cette question. Deuxième, vous ici. Vous êtes enceinte de plusieurs mois et vous vous réjouissez de donner un petit frère, une petite sœur à votre aîné qui a 2 ans. Ce bébé qui arrive, vous le sentez bouger, vous communiquez avec lui, c'est formidable. Une écho montre que l'enfant est porteur d'une grave malformation et le gynécologue vous propose assez vite une IMG. Que faire ? Pensez-vous qu'il y ait d'autres alternatives ? Troisième question. Vous attendez un enfant désiré. Lors de la consultation, le médecin vous propose un test sanguin de dépistage de la trisomie 21. Que faire ? Quelles conséquences ? Ça, c'est pour vous. Et la quatrième. Des amis très proches n'arrivent pas à avoir d'enfant de manière naturelle. On leur a proposé d'avoir recours à l'aide médicale à la procréation, la PMA. Connaissez-vous les techniques utilisées ? Quelles en sont les contraintes, les risques ? Et que savez-vous de ce qu'en dit l'Église ?
À la suite d'une conférence qui avait lieu sur le handicap, quelqu'un se lève qui était un ancien médecin, un gynécologue en région parisienne. Et il dit la chose suivante. Que dans certains cas, il paraissait légitime à son équipe et à lui de faire une interruption médicale de grossesse quand était découvert un handicap important, et il donnait l'exemple d'un enfant à qui il manquait 3 membres sur 4. Il a dit la vie serait trop douloureuse et notre équipe avait décidé d'accéder à la demande d'IMG. Et à ce moment-là, il se rassoit, et il y a un autre homme qui se lève dans l'assemblée et qui raconte que son fils de 11 ans lui avait dit récemment ceci. « Tu sais, papa, ce qui me fait le plus souffrir, c'est que mes parents ne m'aient pas aimé tel que j'étais. Et cet enfant avait été abandonné à la naissance à cause de son handicap. Et il lui manquait 3 membres. Et cet homme l'avait adopté avec sa femme. Il était alors raciste. » Bien évidemment, cette histoire qui est vraie avait beaucoup marqué. Et la conclusion de ceux qui étaient là, c'était de dire « Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être aimé comme on est, sans condition. » Voilà pour l'histoire vraie. Vous avez pu, au cours de ces quatre situations qu'on vous a données, sur lesquelles vous avez réfléchi et qui vous a permis de mettre votre esprit en éveil, je vais reprendre chacune de ces situations, et en particulier pour la première, je vais être un petit peu plus long pour vous donner un certain nombre de repères. Puis les autres situations, par contre, nous serons un peu plus courts. Alors la première situation, c'était celle-ci. Une femme enceinte tentée par l'avortement dit à son médecin « Docteur, à ce stade, ce n'est encore rien. » Alors je vais montrer le problème qui se pose dans cette façon de parler. Puis ensuite, j'apporterai quelques réactions qu'on trouve dans le monde. Et ensuite, je montrerai l'apport de l'Église à cette situation. Alors la problématique, la question sous-jacente est finalement double, puisque la femme dit « Docteur, à ce stade, ce n'est encore rien. Ce n'est encore rien, cela veut pouvoir dire ce n'est qu'un amas de cellules, ce produit de conception n'est rien du tout, ce n'est pas un être humain. C'est donc quand commence la vie d'un être humain ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est tout compte fait, moi je suis pour l'avortement, semble dire cette femme, et l'avortement, c'est, à ce stade-là, c'est rien du tout, c'est banal. Alors à la première question, quand commence la vie d'un être humain ? Il y a un certain nombre de réactions qui existent dans le monde, je ne vais pas toutes les donner parce que ça fait de plusieurs années, surtout en France, qu'on parle de ce sujet, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais ces derniers temps, cette question a été réactivée avec la loi qui a été votée sur la recherche sur les cellules embryonnaires. Donc c'est à partir d'un interview qui est paru dans un grand quotidien français que je vais rapporter quelques phrases qui vont vous permettre de savoir quelles sont les réactions qui sont dans le monde, mais qui sont directes. Vous allez voir ensuite qu'il y a des réactions de tout type. Alors, d'abord la nouvelle loi. La nouvelle loi est un peu particulière puisqu'elle va autrefois la recherche sur l'embryon était interdite avec des dérogations possibles sous certaines conditions strictes, difficiles. Mais maintenant, la loi permet, sous certaines conditions qui sont très laxes ou floues, la recherche sur les cellules embryonnaires. On passe donc d'une interdiction avec des dérogations difficiles à une autorisation avec des conditions très faciles et très floues. Alors René Friedman, dont vous avez entendu parler, a été interviewé il y a une dizaine de jours et il disait « Un œil non averti ne fait pas de différence entre un embryon de souris et un embryon humain. » Il disait aussi « Pour moi, l'embryon n'est pas une personne humaine. » C'est une personne humaine en devenir uniquement s'il est dans un projet parental. Et il disait aussi une phrase qui est assez terrible. Peut-on interdire la connaissance sous prétexte que l'on a des réticences éthiques ? Voilà, c'est résumé de façon très rapide les réactions dans une certaine direction. Grégory Benichou,
bien dans ta bouche pour qu'on entende.
Pardon. Grégory Benichou, qui est un chercheur en génétique, avait écrit il y a une dizaine d'années, dans un livre qui est paru, qui s'appelle « Le chiffre de la vie », la question n'est pas de savoir si l'embryon est une personne humaine ou non, car personne n'est d'accord sur ce sujet, écrivait-il à ce moment-là, et je pense qu'on peut dire que c'est toujours vrai. La question est, quel respect doit-on témoigner à l'embryon humain ? Et il écrivait aussi « Ce n'est pas en tant que sujet de droit que l'embryon mérite le respect, mais en tant que futur sujet de droit. » Je vais probablement un peu vite pour ces citations, mais elles sont pourtant très importantes, et peut-être que vous pourrez entendre dans l'enregistrement, les reprendre dans l'enregistrement. Alors Fabrice Adjad, qui est un philosophe, et qui a été interviewé dans le même journal, répond à René Friedman, « L'évidence, c'est que l'embryon qui découle de l'homme et de la femme est humain. C'est une évidence, l'évidence ne discute pas. » C'est moi qui rajoute. À la question « Est-il une personne, cet embryon, dans la mesure où il s'inscrit dans un projet parental ?» Et il y répond « Cette manière de voir me fait penser à de la magie. Ça n'entre pas dans mon projet et pouf, la personne disparaît. J'ai un projet parental pour cet embryon et pouf, la personne réapparaît. La volonté prime-t-elle sur l'être ?» Voilà résumé, et je m'excuse, en trois mots, un débat très très fort au sein de la société. Mais il y a eu d'autres réponses qui peuvent permettre d'avancer aussi sur cette question. Et je reprends Daniel Moise, qui est un philosophe, peut-être a-t-il été cité hier. La vie est un don. Elle dit, c'est un don dans le sens que ma vie, je l'ai sur les bras. J'ai à l'assumer, personne ne peut être à ma place. Rude don de vie qui m'est fait. Et moi je rajoute, rude n'est pas l'opposé de joyeux. Quelque chose peut être rude et joyeux. Autre réponse encore, la vie est un droit. Donc la vie est un don, la vie est un droit. Et ceci est déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, où il est marqué « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Donc tout individu a le droit à la vie. Et Daniel Moise écrit « Le droit à la vie ne peut signifier que le droit à ne pas être tué. » Et l'on sait que depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, déjà Hippocrate, dans un serment bien connu, et que les médecins redisent de façon, enfin pas totalement exactement pareil. En tout cas, je relis la phrase qui, en relation avec la vie est un don et la vie est un droit, « Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande. » Ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion, et semblablement, je ne remettrai à aucune personne un PCR abortif. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, les réactions, et je m'excuse encore d'être très résumé, la vie de la personne est digne dans notre droit français. Et la dignité est un principe reconnu dans le droit français et qui est même constitutionnel, qui a une valeur constitutionnelle. Dans la Constitution, il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. C'est la loi du mois de juillet 1994. C'est donc un principe. Et dans l'article 16 du Code civil, dans la loi française, il y a marqué « La loi assure la primauté de la personne » interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. De l'être humain, dès le commencement de la vie. Voilà donc en quelques phrases ce qui est dit au niveau de la société, un petit peu tout. Eh bien, il y a dans notre droit, on peut dire quand même, qu'on considère dans le droit français... On considère que c'est une atteinte à la dignité de l'homme que de lui retirer sa vie, et ceci dès la conception. Et pour autant, les lois, et vous le savez aussi bien que moi, ont tendance à dire le contraire petit à petit, progressivement maintenant. Alors l'apport de l'Église. L'apport de l'Église, il est bien entendu anthropologique et philosophique, mais il est surtout spirituel. Et elle nous a dit, la vie est un don, car c'est un don de Dieu. Dieu nous crée à son image. Et cette vie que l'on reçoit est sacrée.
Oui, dans Dei Verbum, il est écrit, la vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu. Tout comme nous rappelle l'Église, la vie est un droit, et dans l'Évangile de la vie étant sacrée, elle est dotée d'une inviolabilité inscrite depuis les origines dans le cœur de l'homme, dans sa conscience. La question « qu'as-tu fait ?» en Genèse, posée par Dieu à Caïn, après qu'il a tué son frère Abel, traduit l'expérience de tout homme au plus profond de sa conscience. Il lui est toujours rappelé l'inviolabilité de la vie, de sa vie, de celle des autres, en tant que réalité qui ne lui appartient pas, parce qu'elle est propriété et don de Dieu, son Créateur, le Père.
La vie est un bien.
La vie est un bien. Toujours dans l'Évangile de la vie est toujours un bien, car l'homme est dans le monde une manifestation de Dieu, un signe de sa présence, une trace de sa gloire. Voilà. Et pour terminer, on peut parler de la notion de personne. L'Église rappelle que tout être humain a la dignité d'une personne à partir du moment où elle existe dès sa conception. Benoît XVI a cette phrase qui est bien explicite. A-t-on déjà vu des êtres humains qui ne sont pas des personnes ? Et dans l'introduction de Dei Verbum, dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même. Et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur. Donc on a vu toutes les réactions du monde, et là, on voit toute la richesse et le trésor qu'apporte l'Église.
Alors à partir des quelques mots que nous venons de dire, dans une chaleur importante, peut-être que vous avez des questions qui se posent à vous. On répondra, alors marquez-les sur un bout de papier afin de vous en rappeler, et on répondra à la fin, on aura un partage un peu plus interactif que ce que nous sommes en train de faire, de donner un certain nombre de repères. Alors, autre repère, c'est le principe de dignité, le principe de liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi sur l'avortement est une exception au principe de dignité, puisque la dignité de l'homme existe à partir du moment où il existe. Et le seul fait, alors on vous a distribué peut-être tout à l'heure un dossier sur mourir dans la dignité. La dignité, c'est en effet un concept qui est un peu difficile. En tout cas, pour le résumer, on peut dire que le seul fait de vivre pour un être humain, et c'est déjà être digne. Donc la loi sur l'avortement est donc une exception au principe de dignité. À partir du moment où c'est une exception, il y a une possibilité d'objection de conscience. Et dans la loi française, à partir du moment où on va contre la loi, on peut dire objection de conscience. Et c'est le cas pour toutes les personnes, tous ceux qui sont en médecine et tous les auxiliaires médicaux, mais pas pour les pharmaciens, parce qu'on considère que là, ils sont dans le droit économique, et non pas quand un pharmacien donne des pilules abortives, on considère qu'il est dans un droit économique et non pas dans un droit moral. En tout cas, il faut savoir que cette possibilité d'objection de conscience est liée au fait qu'il y a une exception de principe de dignité, qui est qu'on n'a pas le droit de tuer l'homme, puisque la dignité tient à l'existence de la personne. Alors la deuxième façon de lire la question qu'on vous avait donnée au départ, docteur à ce stade ce n'est encore rien, c'était l'avortement, ce qu'on fait, c'est assez banal. Y a-t-il une souffrance post-avortement ?
Oui, pendant longtemps, cette souffrance a été niée, occultée. Puisque c'est légal et puisque c'est mon choix, je ne peux pas souffrir de cette décision. C'est légal et j'ai décidé librement de faire cet avortement. Je ne peux pas pouvoir souffrir de ça.
Alors Benoît XVI nous a rappelé que quand on fait le mal, même sans en avoir conscience, cela nous blesse. Cela blesse notre conscience. L'homme, quand il se fait mal, se blesse. Et ce syndrome post-avortement est un signe de ce mal que l'homme se fait en faisant un tel choix. Alors cette souffrance qui a été au départ niée même par le milieu médical est tout à fait reconnue maintenant par ce même milieu. Il y a un certain nombre de thèses médicales, de doctorats en médecine, qui ont été faites là-dessus. Alors, on va pas relire les thèses. C'est sûr et certain que les symptômes peuvent être extrêmement variés. Il y a des symptômes qui sont purement psychologiques, il y a des symptômes organiques. Les symptômes psychologiques, c'est la perte du contrôle de soi, la perte de l'estime de soi, la peur. Il peut y avoir beaucoup de problèmes psychologiques après un avortement. Il peut y avoir aussi des problèmes organiques. Je ne rentre pas dans les détails, c'est de la médecine pure. En tout cas, il y a des associations qui accompagnent ces femmes qui ont avorté après l'avortement, et vous en connaissez peut-être quelques-unes. Je cite Agapa et Mère de Miséricorde. En ce qui concerne l'Église, Jean-Paul II s'est adressé aux femmes avec beaucoup de miséricorde, aux femmes qui ont avorté.
Oui. Peut-être que nous-mêmes, dans notre entourage, nous connaissons, nous avons vécu un avortement. Et quand on relit ce que dit Jean-Paul II, je pense que c'est vraiment important d'avoir toujours ce texte quand on parle aux personnes. Parce que vous allez voir, Jean-Paul II, on voit qu'il comprend le cœur humain, qu'il comprend que, bon, comment ça s'est passé, est-ce que la femme a été vraiment libre, etc. Et voilà ce qu'il dit. Je voudrais adresser une pensée spéciale à vous, femmes, qui avez eu recours à l'avortement. L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision. Et elle ne doute pas que dans bien des cas, cette décision a été douloureuse et même dramatique. Il est probable que la blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement, ne renoncez pas à l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance, vous pouvez confier votre enfant. Moi, j'ai lu vraiment ce texte avec beaucoup de joie en me disant combien l'Église, qui rappelle des choses pas toujours faciles à entendre, mais ô combien libératrices, a toujours aussi cette miséricorde de notre Dieu qui s'est apparaît de monial, on sent particulièrement. Alors, je vous redis, ça se trouve dans l'Évangile de la vie, au numéro 99. Et moi, c'est un texte que j'ai beaucoup dans le cœur pour le transmettre parce que c'est un sujet difficile et parce qu'on a besoin de ce regard d'espérance auquel nous invite Jean-Paul II. Voilà, avant de prendre la deuxième situation, on va peut-être prendre un petit refrain. Mifa va nous entonner qu'exulte tout l'univers. Tu veux bien ?
Tout l'univers qu'il soit chanté en tout lieu, la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terrestre et silence de joie, chante Alléluia.
À toi, chérie. À toi.
Tu peux répéter une deuxième fois ? Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu, la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, excellence de joie, chante Alléluia. Alors on vient de chanter Allégresse. Et pourtant, quand on aborde la question de la vie, on pourrait croire que c'est l'allégresse et les lois actuelles et l'ambiance actuelle nous montre la vie comme quelque chose de dur et de difficile. On a l'impression que ce qui est dur et difficile est forcément triste. Mais c'est pas forcément triste. Voilà, c'est ce que je voulais dire en entendant ce chant, je me disais qu'exulte et tout l'univers. C'est l'idée qui m'est venue à l'esprit. Alors la deuxième situation, Une femme est enceinte depuis plusieurs mois, se réjouit de donner un petit frère ou une petite sœur à son aîné qui a 2 ans. Ce bébé qui arrive, le père et la mère surtout, mais le père aussi, le sent de bouger et communique avec lui, et c'est fantastique. Et pourtant, une échographie, une de ces échographies obligatoires, montre que l'enfant est porteur d'une malformation importante. Et devant cette malformation, le gynécologue propose assez vite une interruption médicale de grossesse. Pensez-vous qu'il y ait d'autres alternatives ? Comment savoir ce qu'il faut faire ? Alors la problématique, ensuite les réactions dans le monde, et ensuite l'apport de l'Église. Alors la problématique devant la personne, l'enfant handicapé, c'est que ça fait ressortir en nous l'envie du bonheur que nous avons. Nous avons tous l'aspiration au bonheur, et nous voulons tout faire pour que nos enfants aient ce bonheur. Et nous pensons par ailleurs qu'il y a un lien essentiel, et c'est vrai, entre certains biens matériels et le bonheur. Par exemple, intégrité physique, psychique, intellectuelle. Par exemple, le lien entre l'argent, la quantité d'argent que l'on a, et le bonheur. Le lien entre le bonheur et l'absence de souffrance familiale. Or, c'est une vraie souffrance quand on se réjouit d'avoir un bébé, d'apprendre que d'un coup qu'il est mal formé. Et Jean Vanier insiste même sur le fait que c'est normal d'être déçu. Donc la question se pose, est-ce que mon enfant va être heureux quand d'abord il va lui manquer un certain nombre de biens matériels et d'autre part qu'il va devoir souffrir ? Et c'est vrai, l'enfant qui va naître avec un handicap est dans une condition risquée vis-à-vis du bonheur. Est-ce juste de le laisser vivre, nous qui avons la responsabilité de sa vie à ce moment-là ? Voilà la question qui se pose, j'invente pas, qui se pose à beaucoup de mères, et moi en tant que médecin de rééducation et de médecine physique et de réadaptation qui s'occupe d'enfants qui ont un handicap, qui étaient amenés à voir avant la naissance des mamans, des papas. Donc ils attendaient ensemble un enfant dont on venait faire un diagnostic de handicap et qui était perdu parce qu'il se disait « Notre fils, notre fille, notre enfant, en tout cas, va être malheureux. Est-ce que j'ai le droit de le laisser vivre ?» C'est vraiment une question très importante. Alors diverses réactions sont dans le monde. Je vais vous lire une première réaction qui est très brutale, qui est celle du sénateur Caillavet, c'était il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, et qui avait écrit dans une contribution à l'avis sur les handicaps congénitaux « Permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale. Et peut-être même le témoignage d'un égoïsme démesuré. » Témoignage d'un égoïsme démesuré. Et pourtant, la loi française dit le contraire. Donc, il disait l'inverse que ce que disait la loi. La loi française dit « Permettre à un enfant handicapé de venir au monde est source de détresse pour la mère, et c'est suffisamment source de détresse pour permettre l'avortement. » Donc il y avait une espèce de torsion dans ce que disait Caillavet pour pousser les personnes à avorter. Et la loi Veil en 1974 dit « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de grossesse jusqu'à 12 semaines. Et si l'enfant est porteur d'une affection de particulière gravité, reconnue comme incurable, ou que la santé de la femme est en péril, l'interruption est possible jusqu'à la fin de la grossesse. » Et notons que la loi Veil ne faisait que dépénaliser l'avortement. Alors à propos de la vie d'un enfant handicapé, ma femme va vous lire quelque chose.
Oui, on a choisi justement de vous présenter diverses réactions. Là, on vous a présenté cette réaction terrible du sénateur Cavalier, puis la loi. Et voilà le témoignage d'une maman, Sophie Lutz, et qui parle de sa petite fille, de sa fille philippine. Voilà ce qu'elle dit. Mère d'une enfant souffrant d'une malformation cérébrale gravissime, détectée pendant la grossesse, je suis en présence avec ma famille jour après jour d'une personne extrêmement vulnérable, dépendante à tout point de vue. La fragilité de Philippine nous rappelle notre propre vulnérabilité. Elle nous ôte nos illusions d'être forts, de contrôler notre vie, de réussir, de pouvoir éviter la souffrance. Elle nous confronte à notre peur viscérale de souffrir et elle nous apprend à aimer comme nous ne savions pas le faire. Et Sophie ajoute, quel combat nous avons vécu, notamment contre l'imaginaire. Ce dont je peux témoigner au sujet de la grossesse, c'est qu'une des choses les plus difficiles à supporter était l'emballement de notre imaginaire. Nous imaginions le handicap et cela nous effrayait. Et il nous fallait nous redire sans cesse que nous ne savions pas ce que serait l'avenir, que nous n'avions pas à le planifier, que nous avions à vivre chaque jour l'un après l'autre. C'est un combat contre l'imaginaire qui nous serine. Ce sera tellement dur. Nous ne pourrons pas le supporter. Nous ne sommes pas capables. Personne ne l'est. Également pénible est la peur que notre enfant souffre et nous devons combattre la tentation d'être maître de sa vie, de résoudre par nous-mêmes le scandale du mal et de la souffrance, ce dont nous n'avons pas le pouvoir, alors que notre rôle est d'aimer, d'accompagner, de soulager. Paradoxalement, pour nous, le bonheur existe quand même. J'invente pas, hein. C'est elle qui écrit. Paradoxalement, pour nous, le bonheur existe quand même. Aujourd'hui, Philippine a 9 ans. Le mystère de sa vie se déroule à nos côtés et elle tient une place essentielle, sa place unique et remplaçable. Notre chemin familial est abrupt. Tout à l'heure, on parlait de rudesse. Nous peinons parce que nous grimpons avec tant d'autres à la montagne de l'amour et qu'il paraît que c'est la plus exigeante, surtout quand on tire un fauteuil roulant. Ce que nous découvrons est grand, profond, mystérieux, étonnant, transformant, acquis de hautes luttes, souvent dans les larmes et souvent aussi dans les rires. Paradoxalement, pour nous, le bonheur existe quand même. Et nous avons appris que l'ennemi numéro un en toutes circonstances est la peur, capable de nous faire le contraire de ce que nous voulons vraiment. Fin de citation. Vous pourrez sans doute, si vous le souhaitez, trouver ce livre à la librairie. Il s'intitule « Philippine, la force d'une vie fragile » de Sophie Lutz aux éditions de l'Emmanuel.
Quelques années auparavant, Mattei, qui était ministre de la Santé, avait fait une préface dans un livre qui racontait une histoire un petit peu identique à celle de Sophie Lutz. Et il écrivait, ainsi qu'en témoignent les pages qui suivent, l'accueil de l'enfant peut parfois entrelacer ces moments de douleur morale profonde à d'indicibles instants de joie, ce qui jamais ne pourra se produire dans un cadre d'avortement médical. Enfin, une chose qu'il faut aussi dire, c'est qu'une décision personnelle retentit sur toute la société. On est en société. Et si la société autorise légalement l'avortement, la suppression des enfants handicapés avant leur naissance, c'est d'une violence extrême pour les personnes atteintes du même handicap et pour toutes les personnes atteintes d'un handicap, qu'ils soient petits ou très importants. Ma vie n'a-t-elle pas de sens, peuvent se dire les personnes handicapées. Ne vaut-elle pas la peine d'être vécue? Je n'ai donc pas le droit de vivre puisqu'on me permet, il y a une exception qui permet que de me supprimer. Alors, l'apport de l'Église. L'Église a réfléchi, bien entendu, beaucoup à cette question de la vie de la personne handicapée. Et en 81, elle a fait paraître un dossier qui est très important, une cinquantaine de pages. Et tout serait à souligner dans ce dossier. En résumé, c'est surtout des conseils que donne l'Église. Respecter la vie, vaincre les causes du handicap, favoriser l'intégration sociale, etc., etc. Donc l'Église a donné surtout beaucoup de conseils. Mère Teresa disait le jour où elle a reçu le prix Nobel de la paix en 79.
C'est ça, le plus grand.
Prions
tous d'avoir le courage de défendre l'enfant à naître et de donner à l'enfant la possibilité d'aimer et d'être aimé. Et je pense qu'ainsi, avec la grâce de Dieu, nous pourrons apporter la paix dans le monde. Un peu plus vite.
Ceci me permet de rappeler l'histoire de départ où cet enfant qui était né avec un membre sur quatre dit à son père qu'il avait adopté « La plus grande souffrance, c'est qu'il me manque trois membres, c'est de ne pas avoir été aimé à la naissance par mes parents génétiques. » Alors, je résume, que faire pendant la grossesse quand malheureusement on se trouve dans une situation de difficile, qu'à la suite d'une échographie on se rend compte qu'une femme attend un bébé qui a une malformation. Et ensuite, alors que faire après la naissance? Alors, pendant la grossesse, il faut se faire entourer. Et surtout ne pas être seul. Bien entendu, se faire entourer quand on est femme par son mari, par celui qui vous a donné cet enfant. Et puis aussi se faire entourer par la société. Il existe ce qu'on appelle des soins palliatifs, même si le terme n'est pas bien adapté. Mais en tout cas, dans un certain nombre de centres universitaires ou non universitaires, il y a des équipes qui accompagnent les parents qui gardent leur enfant. Alors que faire après la naissance? Eh bien, c'est résister. Et là, c'est un peu, non pas par expérience, parce que nous avons la chance de ne pas avoir d'enfants qui ont un handicap, mais par expérience médicale, professionnelle. Je crois que résister à la peur de l'avenir, à la peur de l'avenir qui est inconnue, et puis s'appuyer sur le sens de la vie de cet enfant qui est né avec un handicap. Le sens de la vie, c'est ajouter sa pierre à la construction du monde, ajouter sa pierre à la paix entre les hommes, on a rappelé Mère Teresa, ajouter sa pierre à la découverte de Dieu. Et puis méditer sur l'évangile, sur la parole de Dieu. On vous a beaucoup parlé de la parole de Dieu. Il y a notamment l'évangile de Zachée qui était tout petit, qui était probablement peut-être nain. Eh bien, il voit Jésus avant tous les autres. Il se cache, Jésus le voit, et il donne à ce moment-là avec joie en abondance. Voilà pour la deuxième situation sur laquelle on vous a interpellé. Troisième situation. Bon.
On va aller beaucoup plus vite pour la 3 et la 4. Rassurez-vous, on reprend le petit refrain.
Mère, que soit chantée en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et ses danses de joie, chante Alléluia. Puissance de Dieu, dans une même allégresse, celle danse de joie, chante Alléluia.
Donc, troisième situation, vous attendez un enfant désiré. Lors de la consultation, le médecin vous propose un test sanguin de dépistage de la trisomie 21.
Alors, la problématique, ben, dépister, pourquoi faire, conséquences et risques. Réaction du monde et apport de l'Église. Alors, les réponses du monde, eh bien, c'est d'abord de définir qu'est-ce que c'est que le DPN, c'est-à-dire dépistage prénatal. Bien, selon la loi, c'est l'ensemble des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Alors, ce dépistage, est-ce que le seul fait de dépister, c'est une forme d'eugénisme? Le Conseil d'État a répondu à ce sujet-là. L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut être aussi le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles, convergentes, prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait. Donc déjà, on peut dire que le DPN, c'est une certaine forme d'eugénisme, d'après le Conseil d'État. Alors, qu'est-ce que dit l'Église?
Au plan individuel, comme le rappelle Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, ces techniques sont moralement licites lorsqu'elles ne comportent pas de risques disproportionnés pour l'enfant et la mère et qu'elles sont ordonnées à rendre possible une thérapie précoce ou encore à favoriser une acceptation sereine et consciente de l'enfant à naître.
Quatrième situation, des amis très proches n'arrivent pas à avoir d'enfant de manière naturelle. On leur a proposé d'avoir recours à la procréation médicalement assistée ou PMA. Connaissez-vous les techniques utilisées? Quelles en sont les contraintes, les risques? Et ce que savez-vous de ce qu'en dit l'Église? Alors, la problématique d'abord, c'est qu'il y a un couple sur sept qui est touché par l'hypofertilité. C'est probablement même encore plus important maintenant. Et 1 sur 10 consulte et suit des traitements pour avoir un enfant. C'est donc très fréquent. C'est une épreuve terrible, en effet, de ne pas avoir d'enfant. et cela est source de grandes souffrances. Alors la problématique, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de PMA ? Par ailleurs, le désir d'enfant dans un couple est normal et légitime, et peut-il justifier toutes les techniques artificielles ? Alors les réactions du monde. De quoi parle-t-on quand on parle de PMA ? La PMA, les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryon et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. Voilà, c'est la définition qui est dans le Code de la santé publique. Alors, il y a l'insémination artificielle qui consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme. C'est celui qui est le moins technique. Ensuite, il y a la fécondation in vitro, FIV ou FIVET. Et en France, une dizaine d'embryons sont alors conçus et mis en culture. En Italie et en Allemagne, ce n'est pas le cas. En France, la loi autorise cette création d'embryons surnuméraires. Et à partir du moment où il y a des embryons surnuméraires, on va choisir les quelques embryons qui vont être réimplantés dans le corps de la femme, dans le corps de la femme. Et on fera un dépistage avant pour ne pas transplanter un embryon atteint d'une pathologie grave. Mais aussi, on ne transplantera pas le meilleur embryon, tout au moins morphologiquement. Le meilleur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais morphologiquement. Donc on va conserver les meilleurs pour pouvoir les congeler, car on pense que les meilleurs supportent mieux la congélation. Et on va transplanter un embryon. Autrefois, on en transplantait quelquefois deux ou trois pour être sûr que ça avait un qui arrive au bout du compte, ce qui faisait que quelquefois il y avait des grossesses multiples. Alors les risques, voilà ce que dit un psychologue de l'INSERM, qui a fait une étude il y a quelques années, qui s'appelait « De la pilule au bébé éprouvette ». Les risques psychologiques nombreux, très peu de risques médicaux en France par contre. Ça c'est pour la femme. Mais il y a des risques aussi pour les enfants qui vont naître. Une augmentation d'anomalies congénitales, une augmentation de la grande prématurité, et pour le couple, c'est surtout un parcours du combattant, c'est quelque chose qui est dit très souvent même. Et on fait davantage un enfant à trois qu'à deux. Et certains, ça c'est, je reprends une phrase de ce psychologue, certains ont eu le sentiment d'une instrumentalisation de leur corps, les femmes d'être devenues des machines à produire des ovocytes, et les hommes d'être réduits à un statut de donneur de sperme à répétition.
Voilà.
Alors, que dit l'Église à ce propos ?
C'est presque fini. La procréation humaine est un acte personnel du couple homme-femme qui n'admet aucune forme de délégation substitutive. L'Église reconnaît la légitimité du désir d'avoir un enfant et comprend les souffrances des conjoints éprouvés par des problèmes d'infertilité. Ce désir ne peut cependant passer avant la dignité de la vie humaine au point de la supplanter. Le désir d'un enfant ne peut justifier sa production, de même que celui de ne pas en concevoir ne saurait en justifier l'abandon ou la destruction. C'est dans la dignité de la personne humaine.
J'insiste sur la phrase « Le désir d'un enfant ne peut justifier sa production ». Et en effet, la procréation médicalement assistée est plus proche de la production que de la procréation. Alors l'Église parle aussi de l'acte conjugal. PMA signifie procréation médicalement assistée. Le médecin, quand c'est un médecin, assiste-t-il les parents pour avoir un enfant ou bien les remplace-t-il ? Lors d'une fécondation in vitro, il n'y a plus d'acte conjugal à l'origine d'une nouvelle vie humaine. L'acte conjugal a été remplacé par un acte technique, réalisé par un technicien. Ce n'est pas une assistance à l'acte procréateur des parents. Je vais vous dire une phrase qui n'est pas de moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il l'a écrit. C'est le technicien de laboratoire, c'est lui qui joue un rôle décisif dans la constitution de l'embryon. C'est lui qui appelle les nouveaux êtres humains à l'existence. C'est lui qui a le pouvoir d'exercer un contrôle sur la qualité des êtres générés. Les parents fournissent les gamètes, mais c'est le spécialiste, délégué par eux, qui les rapproche. Est-ce que de tels actes sont de nature thérapeutique ou médicale? Je crois que c'est Olivier Bonnouin, un prêtre, qui a écrit ça. La production d'embryons est d'ordre de l'ingénierie biotechnologique. Et je vous lis un extrait de Donum Vitae. La procréation est moralement privée de sa perfection. La procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des époux. Autrement dit, seul un acte de communion entre les époux est digne de la procréation d'une nouvelle personne humaine. Olivier Bonnouin qui écrit ça. Bien évidemment, ces enfants qui sont nés par ces techniques sont aimés à partir du moment où ils sont nés, ils sont vivants, ils sont aimés par l'Église totalement et leurs parents aussi. Et Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio Donum Vitae du février 87, écrivait « Toutefois, la stérilité, quelle qu'en soit la cause et le pronostic, est certainement une dure épreuve. Les couples stériles ne doivent pas oublier que, même quand la procréation n'est pas possible, la vie conjugale ne perd pas pour autant sa valeur. La stérilité physique peut être l'occasion pour les époux de rendre d'autres services importants à la vie des personnes humaines, telles par exemple que l'adoption, les formes diverses d'œuvres éducatives, l'aide aux familles, aux enfants pauvres ou handicapés. Alors que faire quand l'enfant se fait attendre? Bien, l'Église est pour tous les traitements qui vont traiter la stérilité, favoriser la conception d'un enfant à partir du moment où on respecte la procréation au sein de l'acte conjugal et si on respecte la vie dès la conception et jusqu'à sa mort naturelle.
Dis la conclusion.
Alors, pour conclure, nous aimons bien cette phrase de Jean-Paul II qui dit dans Evangelium Vitae: nous sommes confiés les uns aux autres. Et c'est tellement vrai, nous sommes confiés les uns aux autres. Monseigneur d'Ornelas, qui est notre évêque du diocèse de Rennes dont nous sommes, commente cette phrase ainsi: si la technique vise la maîtrise, alors elle empêche de se confier. Nous devons nous demander comment la technique peut être au service de la réception de la vie et non de sa maîtrise. Consentir à la vie suppose d'accepter de la recevoir. Et pour terminer, le pape François, lors de son homélie du 16 juin 2013, à l'occasion de la journée Evangelium Vitae, dit ceci: le Dieu vivant nous rend libres. Disons oui à la vie et non à la mort. Disons oui à la liberté et non à l'esclavage de tant d'idoles de notre temps. En un mot, disons oui à Dieu qui est amour, vie et liberté et jamais ne déçoit.